casquette plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et la tombe, inversion des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang entre char et usine, innocent dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil.
Bonjour à tous et bienvenue à ce premier podcast en français, publié par SOT.net, premier podcast en français de l'année 2013, donc nous vous souhaitons une excellente année 2013, et surtout, comme on dit, bonne santé.
Bonjour, moi je m'appelle Juliana et je suis avec Pierre. Voilà, on a fait ensemble le premier podcast aussi, premier et dernier de l'année 2012. Et alors, on riait lorsque Pierre a dit meilleure santé, puisqu'on va parler justement du système de santé en France. Souvent on dit que c'est le meilleur système de santé au monde. Alors est-ce que c'est vrai et quels sont les problèmes qui se trouvent à l'intérieur de ce système? Est-ce que on peut dire qu'il y a de très très bonnes choses par rapport à d'autres pays dans le monde, etc. On va analyser un peu ça du côté statistique et par rapport aux faits que l'on retrouve, aussi bien que du côté psychologique et du côté personnel, puisque malheureusement on a eu affaire à pas mal de situations dans lesquelles on s'est trouvé dans le système de santé français, notamment l'année dernière et en début de cette année. Et voilà, malheureusement, parce que bon, personne n'aime être dans des situations pareilles, heureusement de l'autre côté, parce que ça nous a permis de beaucoup apprendre à l'intérieur du système.
Dans une première partie, on va vous faire part de nos expériences plus ou moins heureuses avec le système de santé à la française. Et dans une deuxième partie, on va essayer d'élargir l'analyse et tirer des enseignements, des conclusions sur les spécificités de ce système de santé à la française, ses évolutions, ses perspectives. Et en toute dernière partie, on va ouvrir une petite parenthèse sur ce qu'on appelle les suiveurs autoritaristes, c'est-à-dire ce modèle de pensée très spécifique que l'on retrouve en particulier dans le système hospitalier français. Donc avant d'entamer cette partie, ces deuxième et troisième parties dédiées à l'analyse, rapidement le parcours que j'ai pu connaître dans le système de santé français, mais il est relativement soutenu malheureusement. Ça a commencé en 2008, à l'été 2008, où j'ai commencé à voir. Jusqu'en 2008, comme beaucoup de Français, je pensais vraiment que nous avions le meilleur système de santé au monde. Et je le croyais d'autant plus que j'avais pas eu à le tester, parce que j'étais en bonne santé jusqu'alors, jusqu'en 2008. Je payais beaucoup d'impôts, mais je me disais que ça valait le coup, parce que ça permettait d'avoir ce système de solidarité qui est essentiel, qui date de la résistance et de la Deuxième Guerre mondiale, et qui permet finalement de mettre en place un système de solidarité où les plus privilégiés, les plus aisés aident les malades, ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin de soins. Donc jusqu'en 2008, je vivais dans cette illusion-là, et j'ai rapidement ouvert les yeux, j'ai commencé à avoir des symptômes, et les différents praticiens que j'ai rencontrés, que ce soit dans le milieu hospitalier, dans les cliniques privées, dans les cabinets médicaux, ont aligné les diagnostics erronés. En l'espace de 9 mois, j'ai fait face à 4 diagnostics erronés. Ça commençait par... j'avais des petits fourmillements dans la main, des petites pertes de motricité. On m'a diagnostiqué un syndrome de canal carpien, une inflammation du canal carpien qui nécessitait une chirurgie donc du poignet. Premier diagnostic erroné, puisque les symptômes ont continué à se développer et ont touché l'avant-bras, donc au-delà du territoire du canal carpien. Donc j'ai continué à consulter, j'ai continué à payer des dépassements d'honoraires, à rencontrer des spécialistes dans les grands quartiers haussmanniens. Deuxième diagnostic, syndrome cubital. Syndrome cubital, c'est un pincement du nerf cubital au niveau du coude. Ça aurait pu expliquer certains symptômes au niveau de l'avant-bras et de la main, mais le problème, c'est qu'à l'issue de ce deuxième diagnostic erroné, qui menait également à une intervention chirurgicale, une libération du nerf cubital. Donc à l'issue de ce deuxième diagnostic erroné, les symptômes ont continué à se développer, à se répandre dans la partie supérieure du membre supérieur gauche, dans l'épaule en particulier, ce qui excluait un syndrome cubital. Donc j'ai continué à faire des examens, des analyses de sang, des scanners, des radiographies, jusqu'au troisième diagnostic erroné où un IRM de la colonne vertébrale a révélé une hernie discale au niveau des cervicales. Là aussi, le diagnostic aurait pu être crédible si les symptômes n'avaient pas continué à se développer jusqu'à ce que j'atteigne un point où j'étais quasiment hémiplégique, j'avais tout le côté gauche paralysé, j'arrivais plus à digérer, j'arrivais plus à parler, j'avais de grosses pertes de mémoire. Et donc ce troisième diagnostic était erroné également et mené à une intervention chirurgicale en théorie aussi, une intervention chirurgicale délicate, hein, c'est une opération de la colonne vertébrale et une réduction de l'hernie discale. Donc ma situation, mon état de santé a continué à se dégrader dangereusement jusqu'à ce qu'au final, 9 mois après la survenue des premiers symptômes, enfin une IRM soit pratiquée après 2 mois d'attente et révèle l'existence d'une tumeur cérébrale. Quatrième diagnostic erroné en fait, puisqu'on m'avait diagnostiqué une tumeur bénigne, un méningiome en l'occurrence, et qu'après analyse pathologique, il s'agissait d'un impenimum anaplastique, c'est-à-dire une tumeur cancéreuse de grade 3. Donc, grade 3, selon l'OMS, c'est un niveau d'agressivité de la tumeur. Il y a 4 niveaux en tout, grade 3, donc c'est une tumeur qui est déjà très agressive.
Donc, heureusement que tu n'as pas subi les premiers conseils, en fait. Hein. On se demande combien de personnes, enfin, ce que je retire de ton résumé, de ton parcours, c'est que si on s'arrête au premier diagnostic, combien de personnes vont suivre l'avis des professionnels, des autorités, et subir par exemple une intervention qui n'aurait rien à voir avec leur vrai problème, qui enclencherait d'autres problèmes en plus et qui finalement conduirait à la mort, puisque si on ne traite pas le problème, déjà tu as eu la chance de pouvoir le déterminer au bout de 9 mois et que ça ne soit pas trop tard, mais quand même on parle d'une tumeur dont le taux de survie, je crois que c'est pratiquement zéro, ou j'ai pas les statistiques en tête, mais c'est quelque chose de très très agressif.
C'est pas très élevé, ça veut dire que chaque jour compte, et on va en parler dans la suite de cette historique médicale, puisqu'il y a eu une rechute récemment. Et cette fois-ci, on savait que chaque minute comptait et on est allé au-delà des conseils erronés des autorités médicales. Mais ce que tu dis, c'est très juste. C'est difficile à faire, surtout quand on est malade, quand on a peu d'énergie, mais c'est essentiel de ne pas suivre aveuglément les dogmes, les recommandations de tel ou tel spécialiste, entre guillemets, de telle ou telle autorité médicale. La preuve, 4 diagnostics erronés, donc une première recommandation, c'est de croiser les avis, de consulter plusieurs spécialistes et essayer également, avant de consulter, d'identifier les spécialistes les plus fiables. Mmh. Ce qui n'est pas évident, on va en parler ultérieurement, ce qui n'est pas évident puisqu'il y a une grande opacité autour des résultats des praticiens. Il n'y a pas de système d'évaluation comme on peut faire pour les hôtels, pour les garages. Il n'y a pas de système d'évaluation aujourd'hui sur Internet en France qui permet d'avoir un retour objectif validé par les patients concernant la compétence des praticiens. Donc il faut utiliser du réseau, le bouche à oreille et identifier les bons praticiens et croiser les opinions. Mm-hmm. Ça c'est essentiel.
Et si possible, si vous avez les moyens ou la possibilité de le faire si vous parlez d'autres langues aussi, chercher ce qui se fait dans d'autres pays aussi, hein, parce que souvent chaque école est assez fermée dans certaines recherches, et on retrouve en faisant une simple recherche sur Internet qu'une telle maladie est beaucoup plus répandue ou connue ailleurs. Je vais parler d'un autre cas tout à l'heure pour lequel c'est très très clair, et le fait qu'on ne connaisse pas en France ou que ça se pratique pas d'une telle ou telle manière au niveau des interventions ou des traitements spécifiques, ça limite beaucoup au moment de prendre une décision, hein, si on se base que sur un avis, que sur une façon de voir le problème, etc. Donc, plus on a de données, plus on peut prendre une décision qui amènera un bon résultat. C'est très difficile parce qu'on a en face de nous un système et des personnes qui nous disent, qui prétendent s'y connaître beaucoup plus et qui, en quelque sorte, s'y connaissent un peu plus parce que, bon, on ne peut pas prétendre avoir des connaissances médicales spécifiques et c'est souvent en ayant des problèmes qu'on apprend ou qu'on commence à s'y intéresser. Avant, j'imagine que tu ne savais pas autant... par rapport au cancer, par exemple, que tu n'en sais maintenant.
C'est un point important que tu viens de souligner. Je pense qu'il est essentiel, quand le patient en a la force, en tout cas, quand il en a encore la force, c'est qu'il se documente au maximum sur la maladie ou les maladies possibles qui pourraient expliquer ses symptômes. Parce qu'au final, je me demande à quelle mesure le praticien sait plus que le patient qui se renseigne. Parce que le patient qui se renseigne a un investissement dans sa maladie de fait. Ça le touche directement, tous les jours, parfois tous les jours la souffrance est là, cette pensée est tout le temps dans son esprit, et les recherches, la motivation, la focalisation de la pensée sur ce thème est incomparable par rapport à un praticien qui va rencontrer un patient toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, et qui ne joue pas sa vie, au final, hein, c'est la vie d'un patient parmi d'autres. Donc se documenter, c'est essentiel pour comprendre la maladie, pour identifier des stratégies thérapeutiques gagnantes, pour valider la pertinence des spécialistes qu'il a en face de lui. C'est un élément essentiel pour faire face à la maladie de la manière la plus efficace possible.
Oui, donc on avance un peu quelques années. Donc du coup, tu étais censé être un légume pratiquement après ce cancer ou avoir une qualité de vie vraiment pas... comment on dit, vraiment pas
optimal,
optimal.
Oui.
Et puis en fait il s'est avéré qu'en suivant ta propre intuition presque, tu as trouvé d'autres moyens aussi de guérir petit à petit. Bien sûr que l'intervention chirurgicale, il y a un moment où on ne peut pas l'éviter, hein. Donc c'est ce que tu as suivi, mais pendant 3 ans tu n'as rien eu.
Oui, alors il faut effectivement faire preuve de discernement, prendre ce qui est bénéfique et refuser ce qui coûte plus qu'il ne rapporte.
Un cas particulier, c'est par exemple la mode d'aujourd'hui de prescrire à tout le monde la chimiothérapie ou la radiothérapie, alors que pour certains types de tumeurs, il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent que ça a de résultats positifs. Au contraire, il y a beaucoup de résultats négatifs qu'on néglige souvent. Et voilà, après, c'est une décision très importante à faire, encore une fois, hein, parce que le système nous impose, enfin, on nous suggère d'une façon assez insistante qu'il faut faire une thérapie par une radiothérapie, une chimiothérapie, alors que ce n'est pas toujours le cas. Après, c'est à chacun de voir si les avantages et les désavantages... bon, voilà, après,
C'est un point délicat, parce que... au moment de la proposition thérapeutique de chimiothérapie et ou de radiothérapie, le patient est généralement seul, il est en position de vulnérabilité, hein, il a peur de retomber malade, il a peur de mourir, et il a en face de lui un symbole d'autorité, un médecin, un spécialiste en général, qui recommande très fortement la chimiothérapie et ou la radiothérapie. C'est difficile de dire non, c'est difficile de dire non encore plus quand on est dans un contexte aussi défavorable. C'est difficile de dire non qu'on n'a pas les données. En faisant un peu de recherche, moi, j'ai découvert que cette tumeur-là, ependymome anaplastique, en zone précentrale, comme on dit, c'est une tumeur qui est extrêmement rare. Il y a 5 cas documentés dans le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, statistiquement, il n'y a pas suffisamment de données pour pouvoir affirmer que la radiothérapie est efficace ou non. Bon, la chimiothérapie, c'est encore un autre problème parce que la plupart des molécules de chimiothérapie ne traversent pas la barrière hématoencéphalique. Ça veut dire que vous allez prendre une substance hautement toxique qui va intoxiquer votre corps et qui ne va même pas atteindre les cellules cancéreuses qui sont dans votre boîte crânienne. Donc en général, c'est écarté pour ce type de tumeur cérébrale. Mais effectivement, c'est un choix difficile, c'est un choix qui est essentiel parce que quand on lit les témoignages sur les effets secondaires des radiothérapies, ces effets secondaires, ils sont bien là, ils sont bien avérés. Et quant aux bénéfices de radiothérapie, c'est discutable en fonction des tumeurs, de leur conformation, de leur position. Et de fait, les patients qui ont suivi une radiothérapie connaissent des rechutes. Pour ma part, j'ai eu une rechute à 3 ans et demi, sans radiothérapie, sans chimiothérapie. Pour une tumeur de grade 3, 3 ans et demi sans rechute, c'est un chiffre qui est élevé pour les patients qui ont suivi une radiothérapie. Donc on ne peut pas réécrire l'histoire. Est-ce que la rechute aurait eu lieu ou pas avec radiothérapie? Est-ce qu'elle aurait eu lieu plus rapidement? Ce que je sais en tout cas, c'est que dans les faits, elle a eu lieu très tardivement, cette rechute, et j'ai évité tous les effets secondaires induits par une radiothérapie.
Dont un, c'est le cancer. Si je comprends bien, les rayons gamma, ça a été démontré parfois que ça peut générer des tumeurs. Donc après, on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux une thérapie qui est susceptible d'empirer le problème ou pas? Après, bon, c'est vraiment une décision personnelle, mais le point auquel on veut arriver, je pense, c'est que c'est une décision personnelle. Et ce n'est pas parce que vous avez une figure, une autorité devant vous, qu'il ne faut pas se poser ces questions-là. Il faut rechercher, il faut vraiment voir.
Oui, effectivement, c'est une décision personnelle et c'est légalement ainsi. C'est-à-dire que tout traitement est soumis à l'acceptation ou non du patient. C'est le patient in fine qui décide si oui ou non il accepte de suivre tel ou tel traitement. Mm-hmm. Donc c'est au patient de prendre sa décision en son âme et conscience. Et c'est vrai que la radiothérapie, c'est une stratégie thérapeutique controversée. Parce que les rayonnements ionisants, en particulier les rayonnements gamma, qui sont les rayonnements ionisants les plus agressifs, sont le premier levier de mutagénèse, de mutation des cellules, de transformation de cellules saines en cellules cancéreuses. Alors la communauté scientifique a toute une théorie sur le dosage des rayons et le ciblage des rayons qui va permettre de focaliser ces rayonnements ionisants sur les cellules cancéreuses et les détruire, tout en préservant les cellules saines. Le problème, c'est que c'est pas binaire. On ne peut pas cibler à la cellule près et ainsi ioniser chaque cellule cancéreuse tout en préservant chaque cellule saine du moindre rayonnement ionisant. Une partie des cellules saines de la zone où la tumeur se trouvait sera ionisée et donc sera susceptible, plus que les zones non ionisées, de développer une tumeur ultérieurement.
Voilà, mais revenons un peu en arrière là par rapport à ton expérience la plus récente. Pierre, il était bien conscient de la vitesse à laquelle la tumeur pourrait grandir. Et donc, en début décembre, il a noté quelques signes, quelques spasmes au niveau de la main, du bras, de l'œil, enfin des signes très très spécifique, mais aussi un signal assez tôt, disons, par rapport à ce que tu avais eu la dernière fois. Donc tu savais déjà par rapport à ton expérience qu'il fallait agir et agir vite.
Ouais, début décembre, j'ai noté la survenue de plusieurs symptômes, début d'évanouissement, étourdissement, la tête qui tourne, les pensées confuses, des crises d'épilepsie partielles, des fourmillements importants, engourdissement du membre supérieur gauche. La survenue de quasiment tous les symptômes que j'avais connus 3 ans et demi auparavant. Ça, c'était en décembre 2012, c'était il y a un mois, quasiment jour pour jour.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a couru à l'hôpital. On s'est dit, on a vraiment spécifié au personnel de l'hôpital, écoutez, ça c'est mon historique médical, il faut faire quelque chose, il faut faire un IRM immédiatement.
Il faut faire vite, pour au moins deux raisons. Parce que les tumeurs de grade 3, ce sont des tumeurs qui ont une forte propension à développer des métastases. Et pour ce type de tumeur en particulier, des métastases à la colonne vertébrale. Donc on va vous passer les détails, vous pouvez imaginer la gravité de telles affections. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que cette tumeur est située en zone motrice, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle grandit, elle comprime un peu plus les neurones liés à l'appareil moteur et vous perdez un peu plus de motricité. Et ces pertes sont en partie réversibles, en partie irréversibles. C'est-à-dire qu'à chaque jour qui se passe, vous avez plus de chances ou de malchances de développer des métastases et de malchances d'avoir des séquelles irréversibles en termes de motricité. Donc il faut agir et il faut agir vite.
Donc on a essayé de transmettre ce message à l'hôpital. Résultat, ils ont refusé de faire un IRM, et ils ont fait plutôt un scan. Avec le scan, on ne voit pas grand-chose, sauf si la tumeur, elle saigne, s'il y a beaucoup, beaucoup d'inflammation, etc. Donc, on nous a renvoyé à la maison en disant, mais monsieur, vous n'avez rien, ça ne saigne pas, ce n'est pas une urgence. Alors, ça fait poser des questions, vraiment, parce que si on n'est pas dans une situation de vie ou mort, finalement, on vous envoie à la maison, et puis voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter, etc. On vous donne rendez-vous pour une IRM 4 mois plus tard. Si vous avez de la chance.
Alors, à ce sujet, une parenthèse, si je me permets. On a bien dit qu'il fallait faire une IRM parce que ce type de tumeur n'apparaît que sous IRM, imagerie à résonance médicale, avec produit contrastant. Ça n'a pas été fait. On a attendu 7 heures pour finalement avoir les résultats d'un scanner, et on savait quelle serait la conclusion. Et il nous a été dit, nous, service d'urgence du centre hospitalier, contactons le département des IRM et vous prenons rendez-vous dans les meilleurs délais. Nous sommes en janvier, à la mi-janvier aujourd'hui. Le service des IRM du centre hospitalier de Purpan à Toulouse, pour ne pas le nommer, ne nous a toujours pas rappelé. C'est-à-dire si on avait fait confiance, si on avait écouté aveuglément les autorités de santé, nous serions encore aujourd'hui en train d'attendre et la tumeur serait en train de se développer. Un troisième facteur qui justifie une intervention rapide, c'est que plus la tumeur est petite, plus l'intervention chirurgicale est légère. La première fois, la tumeur faisait 45 mm de diamètre, l'intervention a été lourde, elle a duré 5 heures, et ça veut dire qu'il vous faut des semaines, des mois pour récupérer après. Cette fois-ci, la tumeur, on a réussi à la retirer alors qu'elle faisait moins de 16 mm de diamètre. C'est une intervention chirurgicale beaucoup plus légère, beaucoup plus moins risquée, et la récupération, de fait, elle est beaucoup plus rapide.
Mais bon, pour en arriver à une intervention assez rapide, on a dû vraiment se battre. Alors, et c'est quelque chose que la plupart des gens ne sont pas en condition de faire s'ils se sentent pas bien, s'ils n'ont pas de proches qui les aident, etc. Donc, au bout de quelques heures, on a appelé à peu près 10 hôpitaux en essayant de trouver un rendez-vous pour une IRM urgente. La réponse était toujours la même. Si ce n'est pas une urgence, vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous avant 3 mois. Et ce n'est pas, je pense, parce que les ressources financières manquent. En tout cas, elles sont peut-être mal distribuées. Mais le fait qu'une personne qui a déjà un passé assez lourd et des preuves scientifiques, hein, comme quoi une tumeur a grandi très très vite, que le fait qu'elle ne puisse pas bénéficier d'une IRM dans un cas urgent, c'est aberrant dans le meilleur système de santé au monde. Alors ce qu'on a fait, et c'était un peu, pour l'anecdote, hein, c'était un peu marrant parce que Pierre, il téléphonait donc un centre hospitalier. Bien sûr, il était tout à fait cohérent, comme vous l'entendez maintenant, il est très intelligent et on ne le sent pas du tout au téléphone. Donc lui, il disait, excusez-moi, mais j'ai besoin d'une IRM urgente parce que je suis sûre d'avoir une tumeur. Les gens, presque, ils le prenaient à la rigolade au téléphone. On a changé de tactique. C'est moi qui ai téléphoné en disant la même chose, pratiquement, sauf qu'ils ne pouvaient pas entendre le patient. Résultat, au bout d'un troisième appel, on a trouvé une clinique et tout de suite, ils nous ont dit, bah, écoutez, venez demain. Heureusement, on est tombé sur quelqu'un qui avait l'air assez empathique. La secrétaire d'un médecin à Lyon, il a dû conduire jusqu'à Lyon pour se faire l'IRM, mais on n'était pas prêt à attendre, à respecter les délais imposés par le système parce qu'il ne le prenait pas au sérieux. Donc voilà, on a réussi à avoir l'IRM
dans la
semaine. Résultat, le diagnostic a été confirmé, donc le soupçon n'était pas un produit de l'imagination de quelqu'un qui avait peur par rapport à son passé, son historique médical. C'était effectivement une tumeur, beaucoup plus petite et sans métastase, heureusement. Ce qui en soi, c'est incroyable pour ce type de cancer. Encore une fois, on a repris cette méthode et on a réussi à trouver un chirurgien qui l'a reçu le lendemain d'avoir reçu l'IRM. Mais voilà, prenez compte du fait qu'on a fait à peu près 20 appels. Qu'il ne faut pas que ce soit le patient qui le fasse, parce que s'il a l'air d'être en bonne santé, ils vont l'ignorer. Mais bon, heureusement, on a trouvé un très bon chirurgien qui a pris les choses en main assez rapidement. Pierre, il a été opéré, ça a été un succès. Tout s'est bien passé. Au bout de 3 semaines, on a réussi à faire un miracle, mais sans l'aide du système. Alors, il a fallu se battre.
Même contre les préceptes et les règles du système. On va parler des IRM rapidement. En France, aujourd'hui, pour faire une IRM, c'est un délai d'attente de 2 à 3 mois. Sauf si vous connaissez, si vous êtes le neveu d'un grand spécialiste ou si vous êtes un grand joueur de foot. Dans ce cas-là, vous faites la moindre entorse du petit orteil et vous faites une IRM dans la journée. Je ne suis pas un grand joueur de foot, Dieu m'en préserve, et je me refuse à utiliser tel ou tel réseau, telle ou telle cooptation pour passer les listes d'attente. Normalement, donc, en France, si vous n'êtes pas un grand joueur de foot ou neveu d'un grand spécialiste, vous attendez 2 à 3 mois et vous passez par tout un dédale administratif. Il faut que normalement, vous allez voir votre médecin traitant qui prescrit, s'il le juge utile, une IRM. Qui va prescrire plutôt un rendez-vous avec un spécialiste, neurologie ou neurochirurgie. Vous rencontrez le spécialiste qui va prescrire, s'il le juge utile, une IRM. Là, vous attendez 2 à 3 mois, vous passez votre IRM. Vous rencontrez un médecin interprétateur qui va vous faire une interprétation de l'IRM. Vous retournez vers le spécialiste, le neurochirurgien ou le neurologue, avec l'IRM et interprétation. Donc là, on parle de 4 ou 5 rendez-vous et de 2 à 3 mois incompressibles. 2 à 3 mois, dans certains cas, comme le cas qu'on vous a exposé, c'est beaucoup trop. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est exactement l'inverse finalement. On n'est pas passé par le médecin traitant, pas directement. On n'est pas passé par les spécialistes, on s'adressait directement au service d'IRM. On ne s'est pas focalisé sur les centres d'IRM locaux, comme les patients font généralement et on appelait quasiment dans toute la France, pour trouver le service qui serait le plus réceptif et le plus réactif. On a conduit 1000 km pour aller faire une IRM. Ça veut dire qu'il vous faut les moyens, il vous faut être capable d'assurer le déplacement, de financer le déplacement, l'hébergement, il faut être capable de convaincre le service des IRM, la secrétaire, le médecin. Donc c'est tout un travail de lobbying et de financement qui permet d'obtenir un examen dans des délais raisonnables. Ce qu'on a fait, donc en ne respectant pas du tout les règles habituelles définies par le système de santé français.
Oui, alors, et ça, normalement, ça serait tout à fait naturel dans le meilleur système de santé au monde. Je pense qu'on respecte, qu'on prenne en compte la situation du patient et qu'on s'adapte au niveau de la possibilité qu'il y ait quelque chose d'urgent à faire. Et ça, je pense que ce n'est pas vraiment pris en compte. Alors, est-ce que c'est un problème de manque de médecins? Est-ce que c'est un problème de manque de budget? Est-ce que c'est un problème de manque d'empathie par rapport aux patients? Est-ce que c'est le fait qu'on ne croit pas à l'opinion du patient puisque le patient n'est pas censé savoir puisqu'il n'est pas médecin? Alors, quel est vraiment le problème à ton avis?
Je pense que tout ce que tu as mentionné explique au moins en partie la situation actuelle du système de santé français. Alors, on va faire catégorie par catégorie. Il y a des facteurs structurels. Mmh. De mon point de vue, la sécurité sociale française, c'est un petit miracle qui aurait jamais dû se produire, qui s'est produit pour des raisons bien particulières, des circonstances bien particulières. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les élites, la grande bourgeoisie, les grandes entreprises, les leaders politiques historiques avaient tellement collaboré à les forces nazies, étaient tellement décrédibilisés aux yeux de la population française, qu'il y a eu une petite fenêtre d'opportunité, 46-49, quelque chose comme ça, au cours de laquelle de vrais leaders, qui avaient pour souci le bien commun, le progrès de la population française, a pu émerger, a pu prendre le pouvoir et a pu mettre en place des réformes réellement positives et constructives, dont la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est ça. C'est un de ces progrès miraculeux qui a été matérialisé pendant cette petite fenêtre d'opportunité. Mais on voit quand on consulte l'histoire de France, l'histoire contemporaine de France, que dès la fin des années 40, vers 49 déjà, on parle du trou de la sécu. On parle du coût astronomique de la sécurité sociale. On parle d'un modèle financier qui n'est pas pérenne, qui n'est pas durable. Donc, dès sa création, la sécurité sociale va être attaquée de toutes parts, parce que c'est à l'opposé de la vision des élites. C'est véritablement un système de redistribution, un système de solidarité, un système d'aide aux plus démunis. Et c'est un système, effectivement, qui va ponctionner en partie, en petite partie, dans les profits pharaoniques générés par les grandes entreprises et les grandes fortunes. Donc c'est quelque chose que les élites souhaitent démanteler et œuvrent à démanteler et démantèlent dans les faits depuis des décennies. Donc au départ, vous avez un système de redistribution. La sécurité sociale, du reste, au départ, c'est la couverture santé, mais c'est aussi l'assurance retraite, l'assurance chômage, c'est toutes les protections sociales que nos élites s'évertuent à détruire depuis des années et des années. Donc c'est un immense progrès. Au niveau structurel, c'est une des raisons que tu mentionnais, au niveau structurel, vous avez une sécurité sociale, un système de santé qui est artificiellement gardé en position déficitaire. Donc de manière récurrente, la sécurité sociale, elle est sous-financée. Vous avez des budgets qui ne sont pas à hauteur. Pourquoi ? Parce que les cotisations imposées aux grandes fortunes et aux grands patronats sont bien en deçà de ce qu'elles devraient être. Vous avez des budgets qui sont insuffisants. Donc d'année en année, l'hôpital public en particulier n'a pas moyen d'investir, d'acheter les équipements, de mener les recrutements, de développer les locaux nécessaires à mener ses missions à bien. Ce démantèlement de l'hôpital public, il était nécessaire également pour permettre l'émergence d'un système de santé privé. Pour que les cliniques privées émergent, il fallait que l'hôpital public ne soit plus efficace. Toi ou moi, on ne va pas aller dans une clinique privée qui coûte des 5 et des 1000, alors qu'on a un hôpital public à proximité, super bien équipé, avec les meilleurs spécialistes et totalement gratuit. Donc il fallait au préalable démanteler l'hôpital public, ce qui a été fait depuis des décennies maintenant. Et aujourd'hui, l'hôpital public, c'est... Mais pour être honnête, ma dernière opération, je n'ai pas faite à l'hôpital public, je l'ai faite dans une clinique privée. Donc j'ai payé les dépassements d'honoraires, j'ai payé les forfaits hospitaliers astronomiques, j'ai tiré profit, parce que j'en avais les moyens, d'un système de santé à deux vitesses. Tandis qu'à l'hôpital public, vous aviez, par comparaison à de bonnes cliniques privées, en termes de locaux, de moyens matériels, d'équipements et de ressources humaines, de personnel, c'est incomparable. L'hôpital public, aujourd'hui, c'est ça fait peur à voir. Ça fait peur à voir. Donc, à ce jour, pour des raisons structurelles, on va aborder les raisons, les facteurs psychologiques et sociétaux ultérieurement, mais au niveau structurel, vous avez véritablement une médecine à deux vitesses, autant du côté de l'offre que de la demande. Médecine à deux vitesses du côté de l'offre, avec, à une extrême, vous allez avoir le praticien spécialiste dans un quartier UP d'une grande ville, à Paris ou à Marseille, qui pratique allègrement les dépassements d'honoraires. Quand on parle de dépassements d'honoraires, là on est dans du x3, x4, x5, x10 par rapport au secteur 1 sécurité sociale, c'est-à-dire secteur 1 spécialiste sécurité sociale, on va essayer de pas trop faire technique, c'est 40 euros. Ça veut dire que la sécurité sociale va vous rembourser sur base de 40 euros une consultation. Dépassement d'honoraires x10, ça veut dire que la consultation est 400 euros. La sécurité sociale vous rembourse que tout ou partie des 40 euros, de ce qui est remboursable. Tout le reste, les 360 euros restants, c'est à votre charge. Donc, du côté du praticien, vous avez ce spécialiste dans un quartier UP qui va multiplier les rendez-vous, qui va voir les patients 5 à 10 minutes à 200-400 euros le rendez-vous, avec une salle d'attente pleine, avec beaucoup de patients sur place. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, vous avez les zones rurales, comme chez nous, hein, dans la région toulousaine. On est à peu près une heure de Toulouse, donc on est trop loin de Toulouse pour avoir bénéficié de cet effet urbain qui attire les spécialistes et les généralistes. Donc dans cette zone où nous habitons, vous avez quelques généralistes en fin de carrière qui se rapprochent dangereusement de la retraite, qui ont des carnets de rendez-vous remplis à 3 mois à l'avance, qui ne dépassent pas les honoraires, les plafonds d'honoraires définis par la sécurité sociale. Donc c'est une consultation à 22 euros le rendez-vous. Et entre ces deux extrêmes, entre le spécialiste qui va faire entre 100 et 200 000 euros et le généraliste qui va tourner à peut-être à quelques milliers d'euros par mois et qui va faire 80 euros par semaine, vous avez tout un panel de praticiens avec des niveaux de revenus et des niveaux de prestations fort différents. Mmh. Donc vous avez cette médecine à deux vitesses, du côté de l'offre, praticien, du côté de l'offre établissement, avec, comme on le disait, d'un côté des hôpitaux publics complètement sous-financés, complètement délabrés, et de l'autre des cliniques privées avec les équipements dernier cri, les meilleurs spécialistes payés, surpayés, et pléthore de personnel et des locaux flambants neufs. Donc une offre à deux vitesses. Et vous avez également des patients qui font face à un système de santé à deux vitesses. Vous avez le patient qui a des moyens financiers et qui peut se payer les dépassements d'honoraires, les cliniques privées, les équipements, tous les examens, toutes les analyses nécessaires, avec le coût qui va avec. Et vous avez d'autre côté de plus en plus de Français qui font une croix sur les soins parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de les financer. Aujourd'hui, on peut dire clairement que la santé gratuite en France, c'est une utopie, c'est un vieux rêve qui est depuis longtemps disparu. Quand vous additionnez les dépassements d'honoraires, les forfaits hospitaliers, les franchises et les remboursements partiels de la plupart des médicaments, et remboursements nuls de certains médicaments qui sont pourtant essentiels ou indispensables, vous vous retrouvez avec des factures de santé très élevées qui font que certaines personnes aujourd'hui sont malades, savent qu'elles sont malades et ne se soignent pas parce qu'elles n'en ont pas les moyens financièrement.
Oui, donc en gros, ce que tu es en train de décrire, c'est un chemin vers le système qu'on retrouve dans beaucoup de pays du tiers-monde ou aux États-Unis même. Même dans des pays qui traditionnellement avaient un système similaire à la France, on le retrouve aussi, par exemple, en Chine aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas le moyen de payer certains traitements, ils sont mis à la rue. Hein. Il n'y a pas de traitement intermédiaire même. C'est soit vous avez les moyens de payer certains traitements, soit vous ne faites pas traiter. Aux États-Unis, c'est pareil. Dans d'autres pays, ça dépend de la mutuelle que vous avez. Si vous payez une mutuelle très très chère, vous aurez accès à certains traitements, autrement non. Sauf qu'en France, on dirait que c'est encore déguisé. C'est l'impression que j'ai. Dans notre pays, c'est ouvertement le cas. Personne ne croit que le système est égalitaire ou juste, etc. C'est ce qu'il y a. Alors qu'ici, on a toujours un peu cette impression que bon, la sécurité sociale, elle bénéficie tout le monde on est dans le meilleur système de santé au monde. Donc il y a un peu cette...
Il y a une hypocrisie.
Cette hypocrisie, voilà. Parce que on pourrait très bien dire, bon, mais à partir de maintenant, ce n'est plus comme ça. Après, c'est à la population de l'accepter ou pas. Mais le fait de garder un déguisement d'un système qui n'existe plus, c'est encore plus...
Pernicieux.
Oui.
Oui. Les mutuelles, c'est un bon exemple. Le principe des mutuelles, il est relativement simple. C'est finalement transférer ce qui relevait de la sphère publique et de la solidarité, la sécurité sociale, vers la sphère privée et la cotisation personnelle. C'est-à-dire qu'avec les mutuelles, vous payez une somme mensuelle qui fait que lorsque vous avez besoin de couvrir des frais de santé, c'est la mutuelle qui intervient et qui couvre ces frais de santé. Alors, le problème, c'est qu'avec ce système hypocrite que décrivait Juliana, le citoyen lambda, il a quand même l'impression, et plus que l'impression, de payer deux fois. En tant que cadre, je paye beaucoup d'impôts, y compris pour la sécurité sociale, pour la couverture santé de mes concitoyens et de moi-même, mais en même temps, il y avait nécessité ou forte recommandation que je contracte une mutuelle, ce que j'ai fait pendant des années d'ailleurs. Donc chaque mois je payais une mutuelle, donc je payais à la sécurité sociale pour la santé publique et à la mutuelle pour la santé, pour le reste, pour la quote-part qui n'est pas couverte par la sécurité sociale. La mutuelle c'est pernicieux parce que d'abord c'est la fin du système de solidarité, c'est seulement les riches, ceux qui peuvent se permettre les mutuelles qui en bénéficient. Si vous êtes pauvre, vous n'avez pas le moyen tout simplement de vous payer une mutuelle. Le deuxième problème, c'est que ça devient de plus en plus incontournable. Il y a deux exemples pour illustrer combien les mutuelles ne sont plus des complémentaires, mais des couvertures santé quasiment inévitables. Un, c'est les frais optiques et dentaires. Aujourd'hui, la sécurité sociale couvre peut-être 1, 2, 5% des frais dentaires et frais d'optique. Si vous avez pas de mutuelle, ça veut dire dans les faits que vous payez 95-98% de ces frais, qui sont tout aussi importants que des frais de médecine générale, de neurochirurgie ou autre. Hein. Quand vous voyez pas, quand vous n'arrivez pas à manger, quand vous n'arrivez pas à marcher, ce sont des affections qui sont réellement handicapantes. Le deuxième problème, deuxième illustration de cette prédominance des mutuelles, c'est la CMU. Aujourd'hui, vous avez nombre de spécialistes, en particulier ces spécialistes des quartiers UP, des grandes villes, qui dépassent allègrement les dépassements d'honoraires et qui ne sont pas forcément plus compétents que leurs confrères, refusent de traiter des patients couverts par la couverture maladie universelle, la CMU. Parce que la CMU ne couvre que la partie zone 1, que la partie hors dépassement d'honoraires. Donc, aujourd'hui, vous avez clairement une privatisation du système de santé et de fait, un système de santé à deux vitesses avec ceux qui peuvent se permettre de financer les cotisations de ce système de santé privé, individuel, et de l'autre, ceux qui restent du côté du système en piteux délabrement de couverture de santé mutualisé, collectif, public, la sécurité sociale, ou ceux qui en restent.
Ouais, donc bon, pour résumer, en gros, donc on a parlé des problèmes au niveau du diagnostic et des problèmes au niveau structure du système. Maintenant, est-ce que on va pas dire non plus que c'est le pire au monde? Bien sûr qu'il y a des problèmes de ce genre partout. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que si on réfléchit par rapport aux nécessités, aux besoins des êtres humains, la santé, ça devrait être pratiquement le numéro un, santé et éducation. Hein. Et de plus en plus, on voit que les deux secteurs sont encore négligés. Et d'autant plus, enfin, on voit à quel point c'est ridicule quand on analyse, mais on n'aura peut-être pas le temps de le voir dans ce podcast-là, hein, mais que l'état de santé général de la population s'est énormément dégradé. Toutes les maladies modernes, le diabète, le cancer, énormément de maladies aujourd'hui sont le produit de toute une batterie de produits, de propagande même, je dirais, de décisions qui ont été prises par les élites, justement, pour nous empoisonner. Un cas que les lecteurs de SOT connaissent très bien, c'est par exemple tout ce qui est nourriture. Et à quel point on nous empoisonne avec tout ce qu'on mange. Alors le système, les entreprises, elles ont le feu vert pour nous vendre et nous faire manger tout ce qu'ils veulent. La pyramide nutritionnelle aujourd'hui, elle est faite, elle est conçue par le ministère de l'Agriculture et non pas par des médecins. Les médecins, à l'école de médecins, ils ont juste, je crois, une moyenne de 12 heures de cours de nutrition pendant toute leur carrière. C'est-à-dire qu'il y a un très grand écart entre ce qu'on fait pour prévenir des maladies ou pour les créer carrément et ce qu'on fait pour les traiter. Donc, il n'y aurait pas autant besoin de soins médicaux qui soient au top si on faisait beaucoup plus au niveau de la prévention ou des traitements effectués assez tôt, par exemple comme dans le cas que tu, dans ton cas à toi, le fait de t'avoir dit si ce n'est pas urgent, on ne traite pas ce problème. On voit qu'il y a un problème, il n'y a pas une démarche de prévention, d'éducation au niveau de ce que c'est que de se nourrir de façon adéquate, etc. Donc après, on a énormément de malades, beaucoup plus qu'avant probablement, qui n'ont pas le moyen de se faire traiter. Le système, il n'arrive pas à suivre, ce qui est une conséquence presque naturelle par rapport à toute la manipulation qu'il y a eu derrière, tout l'industrie agroalimentaire, etc. Mais où sont les revenus? Qu'est-ce que le gouvernement investit au niveau du temps et de l'énergie et de l'argent? Pourquoi focaliser tellement de ressources sur la sécurité routière, par exemple? Ça, c'est un autre cas où l'État, il encaisse beaucoup d'argent, alors que statistiquement, ça apporte pas grand-chose au niveau de la réduction d'accidents de la route. Pourquoi est-ce qu'on laisse aux entreprises vendre des produits qui sont scientifiquement, ça a été scientifiquement prouvé qu'ils empoisonnent le cerveau et tout le corps? Voilà, il y a un décalage et on retrouve à chaque fois cette histoire de ponérologie politique. Vous avez dont vous avez entendu parler ou dont, que vous avez lu dans Sotte, c'est cette influence des gens qui n'ont pas forcément nos meilleurs intérêts en tête et pour qui tout ce qui compte c'est le profit. Alors on a du profit du côté de l'industrie agroalimentaire et maintenant on va vers le profit au niveau du système médical. Ouais. Donc en fait, les seuls bénéficiaires, c'est toujours...
une petite élite pornérisée. Il y a un problème de philosophie, je crois, au niveau de la manière dont les autorités de santé appréhendent la santé de nos concitoyens. Aujourd'hui, de ce que j'en comprends, les praticiens sont très bons pour diagnostiquer. Ils vont établir des diagnostics cliniques à travers ou grâce à différentes analyses et appareils de diagnostic médical. Ils vont poser un diagnostic et ils vont prescrire des molécules thérapeutiques de synthèse qui permettent d'atténuer ou de masquer les symptômes. Nulle part est prise en compte, ce que mentionnait Juliana, la prévention et les causes sous-jacentes de l'affection qui a été détectée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la sécurité sociale, on le voit, ou de la couverture financière des frais de santé, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est complément alimentaire, homéopathie, acupuncture, massage, méditation, relaxation, sophrologie, tous ces outils qui peuvent être efficaces, qui sont parfois efficaces, ne sont nullement remboursés par la sécurité sociale, qui se focalise sur les molécules thérapeutiques de synthèse, dont l'efficacité est parfois discutable et dont les effets secondaires sont rarement contestés. Donc on a aujourd'hui un système de santé, par exemple, qui à travers l'argent des contribuables, notre argent, a remboursé massivement une molécule comme le Mediator, qui a fait des milliers de morts, attestées depuis des décennies, et qui viennent d'arrêter le remboursement de l'homéopathie ou de l'acupuncture, ou d'autres thérapies dites alternatives.
Mais on voit à quel point c'est, quelque part, c'est logique, parce que si tu imagines un monde dans lequel, ou un pays, on va prendre la France, dans lequel on bascule et on commence à prendre en compte les traitements préventifs et les causes des maladies, l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire seraient tombées en faillite, déjà il y a longtemps. Donc c'est là qu'on voit qui en sort bénéficier, mais c'est toujours ces entreprises-là. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on sache qu'il y a des moyens plus naturels pour combattre, surtout pour prévenir certaines maladies.
Et qu'ils sont responsables, au moins en partie, des maladies de civilisation que nous connaissons actuellement.
Voilà.
Et ce qui est ironique aussi, ce qui est triste à faire comme constat, c'est que la pauvreté, c'est un facteur aggravant. Comme on le disait précédemment, à partir d'un certain seuil de pauvreté, l'individu n'a plus les moyens de se soigner, n'a plus les moyens de financer les soins dont il aurait pourtant besoin. Et également, au niveau nutritionnel, on se rend compte que le privilégié et les élites peuvent accéder aux aliments bio, de qualité, équitables, sélectionnés, frais, chers. Tandis que la pauvreté, ça va être un facteur d'aggravation du régime alimentaire suivi, parce que quand on est pauvre, on va faire ses courses chez Lidl et on se remplit encore plus de produits de faible qualité, riches en OGM, riches en additifs chimiques, pas bio du tout, ce qui aggrave encore la situation de l'état de santé de ces populations déjà défavorisées.
Mmh. Alors, une chose que j'ai trouvée assez intéressante aussi, c'est cette question de statut en France, dans beaucoup d'autres pays aussi, hein. Mais le statut est parfois justement le... On dirait que c'est l'éducation qui fait un peu ça, ce problème de hiérarchie au niveau de la structure du système éducatif, mais aussi chez les gens, parce qu'on l'absorbe ça. Hein. Donc vous êtes en face d'un médecin, et c'est l'autorité avec A majuscule. Hein. Et on trouve... Je trouve que la plupart des médecins, et on en a connu pas mal, manquent cette capacité d'écoute, de se mettre à la place du patient, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait changer certains aspects de la médecine ou du système. Si on prenait ça en compte aussi, hein, le fait que un médecin, ce n'est pas seulement un livre ouvert de théories qu'ils ont appris par cœur ou le vidal qu'ils ont dans la tête, c'est vraiment un être humain en face d'un autre être humain qui est en souffrance. Et ça, souvent, ce n'est pas forcément vu comme une qualité ou quelque chose qu'on doive, à laquelle on doit donner de l'importance au niveau de l'éducation en médecine. Donc souvent, on se retrouve avec quelqu'un qui est la grande autorité, mais qui n'a pas l'air d'écouter ou qui n'a pas l'air de comprendre vraiment ce qui se passe. Et je me demande à quel point ça a des effets chez les patients aussi, le fait de se sentir négligé ou ignoré par le système, sauf si vous êtes dans un cas urgent, par exemple, ou si vous tombez sur un médecin qui prend à cœur vraiment les problèmes de ses patients. Et c'est assez rare. Hein.
C'est pas blanc et noir. Il faudrait qu'on puisse en profiter pour saluer la minorité de médecins, souvent des médecins de campagne, qui ont une vocation, qui sont animés par le désir d'aider leurs prochains, qui sont disponibles humainement, qui mettent beaucoup de temps et d'énergie à disposition de leurs patients, qui savent écouter, qui savent être en empathie, qui comptent pas leur temps, qui comptent pas leurs sous non plus. Et ils sont suffisamment rares pour être mentionnés. Il y en a encore, ce sont des résistants, des sortes de résistants, et ils méritent toute notre reconnaissance. Mais c'est vrai que pendant ces 4 années de tribulation médicale, j'ai rencontré de très nombreux praticiens et j'ai remarqué de nombreux très psychologiques en commun chez les uns et chez les autres. D'abord, beaucoup de certitudes. Beaucoup de certitudes, alors c'est peut-être ce qu'on nous rabâche à longueur de temps dans les médias, les 10 ans, les 12 ans d'années d'études, qui donnent ces certitudes à nos praticiens, à nos spécialistes en particulier. Le problème, c'est que si vous passez 10 ans à étudier des choses fausses, ça garantit à rien que vous ayez la science infuse, au contraire. Vous aurez l'illusion des certitudes, l'illusion de savoir, mais votre savoir sera erroné, partiellement ou totalement. Donc beaucoup de certitudes, et j'en veux pour preuve ces 4 diagnostics erronés que j'ai connus et qui ont été posés avec une totale certitude, sans le moindre doute, sans consulter des collègues, sans croiser des opinions, sans demander des examens complémentaires. Ça y est, c'était fait. En 5 minutes, vous avez canal carpien, syndrome cubital, hernie discale, méningiome, c'était ça, c'était arrêté. Il y a vraiment ces rôles prédéterminés où le praticien est le sachant et le patient est l'apprenant. Il y a une infantilisation réellement du système de santé français du patient. Le patient se retrouve tout en bas de la pyramide implicite, mais bien réelle, qui structure les établissements de santé français. Vous avez tout en haut les spécialistes, puis les généralistes, puis les internes, puis les externes, puis les infirmières, puis les aides-soignantes, puis le personnel de soins, puis vous avez les patients, tout en bas de la pyramide. Alors ça, je l'ai vécu d'autant plus qu'avant d'être malade, j'étais cadre dirigeant dans un secteur lié à la santé. Donc j'ai passé du temps dans des conseils d'administration qui ont eu lieu dans des centres hospitaliers, j'ai côtoyé des présidents d'universités, des directeurs de CHU, de grands spécialistes, de grands chercheurs. Et quand je traversais les locaux hospitaliers avec mes costumes 3 pièces, j'ai bien perçu l'attitude du personnel à mon égard et la différence d'attitude une fois que j'avais revêtu la blouse de patient. J'étais passé d'une extrême à l'autre. J'étais passé du haut de la pyramide sociale au bas, au fondement même de cette pyramide implicite. Alors effectivement aussi, ce que j'ai remarqué, c'est cette quasi-absence de dimension humaine. Le sentiment que j'ai eu, franchement, la plupart du temps, c'est que j'étais là pour écouter l'expertise du spécialiste, appliquer ses recommandations à la lettre, les yeux fermés, et signer le chèque avec dépassement d'honoraires, bien sûr. Très peu de temps, de disponibilité, très peu de dimension humaine, d'écoute, d'échange, une maladie longue et grave, ça vous affecte psychologiquement, que vous le voyez ou non. Et ce soutien, cette compréhension, cette chaleur humaine, elle est d'autant plus importante que vous êtes dans cette position de vulnérabilité. Franchement, je n'ai jamais trouvé ça en face des spécialistes, des praticiens que j'ai rencontrés. Alors, notre problème, c'est la compartimentalisation des secteurs de santé, des secteurs de spécialité. Ça peut être un problème parce que de nombreuses affections sont holistiques. De nombreuses affections touchent différents secteurs de spécialité de la santé. Et comme vous avez ces compartiments entre différentes spécialités, vous n'avez pas de communication entre différents secteurs et impossibilité d'établir des diagnostics holistiques qui prennent en compte des symptômes relevant de différentes spécialités. Ça réduit l'efficacité thérapeutique du spécialiste. L'arrogance également. Bon, vous êtes français, ou vous êtes francophone, puisque vous écoutez ce podcast, donc vous savez certainement de quoi je parle. C'est pas forcément explicite, l'arrogance française, et pourtant ça habite chaque seconde des interactions humaines, surtout quand il y a une différence sociale, hiérarchique entre deux individus qui interagissent. Ça se manifeste par un sourire, une attitude, un regard, la manière de parler, la manière dont vous êtes traité. Clairement, vous êtes l'ignorant et le spécialiste et celui qui sait. Donc, vous taisez, vous écoutez, vous vous soumettez à l'autorité. C'est votre seul droit, c'est votre seul devoir. Et pour terminer, alors ce qui peut sembler paradoxal à certains de nos auditeurs, c'est l'incompétence que j'ai constatée. C'est triste à dire, mais il faut bien le souligner. Ça a été un choc pour moi, parce que je suis français. Et donc, consciemment ou inconsciemment, j'étais élevé dans cette croyance dans la compétence des élites et des experts, y compris les médecins, en particulier les médecins. Et de me rendre compte à quel point les médecins étaient ignorants et incompétents, on parlait 4 diagnostics erronés, mais c'est aussi l'ignorance totale des facteurs nutritionnels et du rôle qu'ils peuvent jouer dans le développement de maladies. C'est leur ignorance crasse de tous les facteurs psychologiques et émotionnels qui sont des facteurs déclenchants et ou aggravants de nombreuses maladies. Donc, mais force est de constater, au fil des rendez-vous, au fil des diagnostics erronés, au fil des analyses infondées, que nous attribuons généralement beaucoup plus de compétences à nos praticiennes qui n'en ont en réalité.
Alors, par rapport à tout ça, j'ai une petite anecdote, justement, qui n'est pas très marrante, en fait, quand on pense aux conséquences que ça a. Hein, mais on a aussi le cas de mon ami qui a été diagnostiqué après 20 ans d'incompétence et d'avoir vu une vingtaine de médecins avec la maladie de Verneuil. C'est une maladie qui est soi-disant très rare, mais de plus en plus fréquente. Ou alors, est-ce que c'est les gens qui commencent à en parler plus maintenant? On ne sait pas. Beaucoup de médecins, avant, et notamment en France, avant d'admettre qu'ils ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait, ils préféraient de faire culpabiliser le patient. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de maladies. Hein. Notamment, la maladie de Verneuil, c'est un problème de peau. Et ne sachant pas de quoi il s'agissait, en disant, bon, mais c'est bizarre, vous développez des abcès dans certaines parties du corps, c'est très étrange, ça doit être parce que, un, vous l'avez pas assez, donc vous n'avez pas une hygiène de vie correcte, deux, vous êtes fumeur, trois, voilà, ils trouvent n'importe quelle excuse avant d'admettre, écoutez, on ne sait pas, c'est une maladie rare, on va faire plus de recherches. Quand on leur demande de faire plus de recherches, ils refusent. Donc après 20 ans d'avoir essayé de trouver un diagnostic, on est tombé sur un médecin qui a tout de suite dit ça c'est la maladie de Verneuil, ça n'a rien à voir avec l'hygiène, alors qu'on fait culpabiliser une personne pendant 20 ans par rapport à son aspect physique, parce que souvent c'est des personnes qui ont du surpoids, par rapport à l'hygiène, etc. Finalement, en ayant trouvé des spécialistes, on a pu vérifier qu'il ne s'agit pas du tout de ces facteurs là. Et voilà, pendant 20 ans, vous faites culpabiliser quelqu'un qui va plutôt décider d'arrêter de parler de cette maladie, puisque ça fait honte, c'est inconnu, etc. Et donc, imaginez le problème psychologique qu'il y a derrière. Une fois qu'on trouve une solution à moitié, parce qu'on cherche, parce qu'on se demande, parce qu'on rencontre des personnes qui ont des symptômes similaires, l'une des choses qu'il a fait, c'est de changer de régime alimentaire. Donc, il a supprimé certains aliments qui étaient toxiques pour lui. Et on a vu qu'il y avait une différence, on a remarqué une différence au niveau des récidives. Même si ça ne peut pas arrêter la manifestation de la maladie. Donc, pour la petite anecdote, on est allé voir le chirurgien. Et mon ami l'a expliqué qu'il mangeait surtout des protéines animales, de la graisse animale, et qu'il évitait beaucoup de fibres, puisque ça a un effet néfaste chez beaucoup, beaucoup de personnes au niveau du côlon, contrairement à ce qu'on dit. Et la réponse du médecin, c'était: attention, ne mangez pas trop de viande, vous allez manquer de protéines. Alors, on est en face d'une autorité, de quelqu'un qui a fait des études pendant au moins 10-12 ans, et qui vous dit: ne mangez pas de protéines parce que vous allez avoir des carences en protéines. Alors, voyez l'ignorance des médecins, des professionnels par rapport à ça, c'est flagrant. Et quand on leur dit: mais écoutez, ça peut être quelque chose qui pourrait aider à certains de vos patients avant d'arriver à une intervention chirurgicale, ils vous disent: non, mais j'ai pas le droit d'en parler parce que ce n'est pas vraiment testé. Encore un exemple d'ignorance, puisque ça a été testé dans plusieurs pays, et on constate énormément de différences et d'améliorations quand on change de régime alimentaire. Selon les intolérances de chaque personne, de chaque individu, la toxicité qu'il y a dans certains aliments et tout ça. Donc le fait qu'un médecin, qu'un professionnel ne se pose même la question, quand vous avez devant vous un exemple d'un patient qui a cherché, qui a trouvé des solutions, peu importe qu'elles soient partielles ou pas, il a trouvé des solutions de façon d'améliorer le problème, et que le médecin vous dit... non, ça sert à rien, vous n'êtes pas un cochon d'Inde dans un laboratoire, votre expérience, ça compte pas. C'est quand même un gros problème, parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de solutions qui a priori ne sont pas standards, ne sont pas approuvées par le système, par l'école de médecine. Mais comment vous faites pour réconcilier les deux choses? Vous avez de l'expérience tangible chez plusieurs personnes qui trouvent des améliorations en suivant des traitements, par exemple, plus holistiques ou naturels. Et de l'autre côté, toute votre programmation à vous qui vous dit il n'y a que ce que vous avez étudié qui compte.
Oui, alors en parlant de cochon d'Inde, je pense qu'une faiblesse structurelle du système de santé français... C'est la dissociation qui existe entre la recherche fondamentale en sciences du vivant, biologie, immunologie, etc., et les praticiens, le milieu hospitalier. Vous le voyez dans les CHU, par exemple. En général, les deux fonctions recherche fondamentale, campus recherche et milieu hospitalier, praticiens, sont complètement dissociées. Aujourd'hui, les praticiens... n'ont quasiment pas d'informations provenant en direct de la recherche fondamentale. Entre les deux, il y a les laboratoires pharmaceutiques. Alors j'en parle en connaissance de cause, pendant des années j'ai travaillé dans ce secteur du transfert de technologie, des sciences vivantes, c'est-à-dire l'interface entre la recherche fondamentale, les découvertes, qui sont parfois excellentes, et de l'autre côté l'application des médicaments. En France, et dans les pays développés en général, vous avez entre les deux les laboratoires pharmaceutiques, et l'essentiel des informations qu'obtiennent les praticiens, les médecins, sont distillées par les laboratoires pharmaceutiques, via l'énoncé des médicaments et via les visiteurs médicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les connaissances des médecins, ce que les médecins apprennent pendant leur cursus, les programmes universitaires, les études en médecine, toutes les informations relatives au diagnostic, aux maladies, aux thérapies, aux molécules thérapeutiques, tout ça est compilé, distillé par les laboratoires pharmaceutiques, qui sont de fait jugés partis. Les laboratoires pharmaceutiques, ils sont animés par une seule optique, la maximisation du profit de leurs actionnaires, et pour ce faire, ils ne vont pas hésiter, comme ça a été documenté à plusieurs reprises, Mediator entre autres, ils ne vont pas hésiter à transformer les données, omettre certaines données, manipuler certains résultats d'expérience, passer à la trappe certaines expériences qui ne mènent pas aux résultats qu'ils souhaitent. Et au final, vous avez des praticiens qui ont une vision très distordue, très erronée de la réalité de santé, que ce soit au niveau des diagnostics, des symptômes et des stratégies thérapeutiques.
L'un des cas le plus flagrant étant celui des statines. Les statines, il y a beaucoup de médecins, on va les appeler militants, qui se battent contre les statines parce qu'ils ont vu et ils ont prouvé que les statines elles ont beaucoup beaucoup d'effets secondaires, notamment la perte de mémoire par exemple. Et de l'autre côté, vous avez les pharmaceutiques qui les promeuvent à 100%. Et les statines sont les médicaments qui ont apporté le plus de profit dans les dernières années aux pharmaceutiques. Donc vous avez en face de vous un patient pour lequel des fois vous ne donnez même pas de... qui parfois n'a même pas le choix, parce que si vous vous opérez par exemple un problème cardiaque et qu'il a un stent qui
est... À libération progressive de statines.
Voilà, à vie, il devra prendre un médicament avec des effets secondaires horribles. Sans avoir eu un deuxième avis, sans avoir eu l'autre côté de l'histoire, et en croyant que voilà, c'est ça qui va le permettre de survivre et de vivre encore pendant plusieurs années. Les médecins, ils savent pas. La plupart de médecins, ils ont de bonnes intentions, je pense. Ils sont pas là en train de se dire je mens consciemment à mon patient, je vais lui dire de prendre ces médicaments alors que je sais très bien que c'est un mensonge. Ce n'est pas le cas. Ils ont été autant programmés et ils ont reçu autant de mensonges que le reste du public.
Oui,
mais c'est très difficile de faire la part des choses, parce que en tant que patient, on n'est pas censé avoir les années d'études que eux ils ont. Et si votre médecin vous dit bon, ça c'est ce qui va vous permettre de survivre, ben vous le faites. Mais il y a un gros écart. Qui c'est qui décide, qui prend les décisions les plus importantes au niveau de notre santé? Ce sont des entreprises. Et le but des entreprises, c'est de faire du profit. Donc il ne faut pas se leurrer en croyant que, au fond, parce que notre médecin a de bonnes intentions, le résultat va être positif.
Oui, savent les médecins des statines? Ils savent ce qu'ils trouvent dans le Vidal, le dictionnaire Vidal, des médicaments. Le contenu du Vidal, il provient des études cliniques menées sur les molécules thérapeutiques. Les études cliniques et les essais cliniques sont financés et dirigés par les laboratoires pharmaceutiques propriétaires de ces molécules thérapeutiques. C'est-à-dire toutes les données en termes d'effets secondaires, de toxicité, de tolérance, de posologie, d'efficacité, sont établies par les laboratoires pharmaceutiques. Et les médecins ne font que répéter ces données, parfois erronées, qui leur sont fournies par les laboratoires pharmaceutiques via dictionnaire Vidal et autres sources de ce type.
Et on ne peut que se demander si ce n'est pas fait de façon intentionnelle au niveau des pharmaceutiques. Vous allez trouver des informations sur SOT et sur notre forum de discussion, par exemple, sur tout ce qui est le mythe du cholestérol. Et il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sont prises comme s'il s'agissait de la Bible médicale, par exemple, contre le gras, les matières grasses saturées, animales, etc. Et quand on creuse un peu et qu'on voit les études qui ont été les plus répandues, il s'agit des tests qu'ils ont fait avec des graisses synthétiques, de la margarine, des huiles hydrogénées. Et la conclusion, c'est les matières grasses saturées sont néfastes ou ont des effets mauvais pour la santé. Les médecins, ils écoutent ça, ils vont le croire, tout comme n'importe quelle personne qui l'entend. Mais ce n'est qu'en creusant qu'on se rend compte à quel point ça a été des analyses impartiales. Et c'est là qu'on se demande s'il n'y a pas des objectifs vraiment conscients de la part de ces pharmaceutiques ou de ces élites qui désirent empoisonner les gens. Bon, après, il y en a qui vont dire que c'est trop conspirationniste, mais pourquoi accepter des études qui ont été tellement influencées par finalement l'industrie agroalimentaire qui veut vendre ces huiles, des huiles d'un certain type ou des graines, par exemple des céréales, hein. Ils promeuvent beaucoup la fibre et les céréales, alors qu'il y a énormément d'études qui contredisent les résultats officiels. Après, on se demande qui c'est qui veut nous faire tomber malade et pourquoi.
Oui, on peut parler des vaccins également. Aujourd'hui,
oui.
D'une part, l'efficacité des vaccins est largement controversée, puisqu'on se rend compte que la baisse de fréquence des maladies censé être prévenu par les vaccins, en fait, baisse en raison de mesures d'hygiène publique et de santé publique, et non pas à cause de l'utilisation des vaccins. Ça, c'est pour l'efficacité. Et pour la toxicité, il est clairement prouvé désormais que certains adjuvants, en particulier les adjuvants qui contiennent de l'aluminium, sont extrêmement toxiques, en particulier pour le système nerveux central. Il n'empêche qu'aujourd'hui, plus que jamais, les nouveau-nés, les enfants, sont soumis, hein, quasiment obligés de passer par des... aujourd'hui, c'est des dizaines de vaccins, je crois. Mm-hmm. Les vaccins et les rappels, et avec toutes les réactions négatives que les enfants présentent à ces vaccinations, en particulier l'explosion du taux d'autisme dans les nouvelles générations.
Et tu parlais tout à l'heure de l'infantilisation des patients. C'est un problème qui a été abordé par plusieurs psychologues, notamment dans le monde anglophone récemment, et des psychiatres, quand on parle des antidépresseurs par exemple, et on le voit au niveau de la médecine, donc des problèmes physiques, a priori uniquement physiques, à quel point on nous fait croire qu'on n'a pas de choix et qu'on n'a pas de pouvoir de décision dans ce qui concerne des maladies mentales ou physiques, et d'ignorer les causes ou les choses que chaque individu peut faire pour s'en remettre, pour guérir, c'est une grosse erreur. Et on se demande si ce n'est pas fait exprès, encore une fois. Hein. On nous dit, vous n'y pouvez rien, ce ne sont que des neurones et des neurotransmetteurs qui génèrent un problème au niveau du corps, ou c'est génétique. Voilà, la réponse standard, souvent, c'est vous n'y pouvez rien, c'est génétique, prenez ce cachet. Alors que dans beaucoup, beaucoup d'écoles et de courants, on voit qu'il y a une grosse partie qu'on peut prendre en main, même s'il y a une susceptibilité génétique. Ça a été prouvé que les gènes ne sont pas des substances qu'on ne peut pas du tout changer. Par exemple, au niveau de la nutrition, il y a des études qui ont été effectuées pour aussi bien montrer à quel point une mauvaise nutrition ou certains polluants peuvent influencer les gènes et les faire muter et déclencher des maladies entre guillemets modernes,
épigénétiques,
et de l'autre côté que aussi bien donc ça que le fait qu'une bonne nutrition ou certains traitements holistiques ou y compris la méditation peuvent créer l'effet contraire, c'est-à-dire créer l'apoptose, le suicide des mauvais gènes et la régénération de bons gènes. Donc le fait qu'on nous dise qu'il n'y a que des médicaments qui marchent ou que le traitement officiel qui marche, que la parole du médecin qui compte, c'est un mensonge dans le fond, parce que il y a beaucoup beaucoup de preuves comme quoi ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas transformer si on fait un effort de prendre les choses en main, de prendre le problème au niveau dans sa totalité, etc. Donc ça, c'est vraiment l'un des plus gros mensonges, je pense, derrière ce qui fait marcher cet engin de l'industrie médicale ou de l'industrie agroalimentaire, etc. Et il ne faut pas, je pense que l'un des problèmes, c'est ça, c'est que on est infantilisé d'un côté, on nous cache beaucoup de données, et du coup le résultat, c'est qu'on respecte ces autorités là. Alors que ces autorités-là, ils ignorent justement le côté responsabilité personnelle et solution envisageable.
Oui, ils renforcent, ils jouent et ils profitent de cette infantilisation, hein, parce que c'est plus facile de gérer un patient qui est soumis et ignorant qu'un patient qui dispose de son libre arbitre, qui connaît un peu le sujet et qui va faire preuve d'analyse critique. C'est particulièrement vrai dans le cadre du cancer. Moi, bien sûr, comme j'imagine tous les malades du cancer, j'ai voulu comprendre les causes de cette maladie pour pas retomber malade et pour savoir d'où ça venait, pour comprendre. Et en général, j'ai eu les mêmes regards ahuris de la part des praticiens à qui je posais la question, qui me disaient « mais c'est génétique ». Alors génétique, ça c'est la réponse universelle qui veut tout dire et rien dire. Génétique, donc c'est immuable, c'est comme ça, c'est gravé dans mes gènes, c'est inévitable. Mais alors je dis, mais comment ça se fait que j'ai ces gènes-là et que j'ai ce cancer-là, alors que dans ma famille, il n'y a pas eu un seul cancer du cerveau. Ah oui, mais c'est génétique, mais en fonction du père, de la mère, des combinaisons de gènes, ça peut apparaître chez un individu, pas chez l'autre. Bon, apparemment, c'était la réponse miracle, mais qui voulait pas dire grand-chose. Alors, il y avait cette sorte de fatalisme lié à la génétique, mais en même temps, mon médecin n'a pas hésité à me dire, après ma rechute, si vous ne faites pas de radiothérapie, je vous garantis que dans moins de 18 mois, vous aurez une deuxième rechute, une troisième tumeur. Alors, dans la mesure où le facteur est génétique, où il n'y a que 5 cas dans le monde documentés, comment est-ce que ce médecin peut savoir dans combien de temps une nouvelle rechute aura lieu? Moi, j'en sais rien. Peut-être que ça aura lieu dans 18 mois, j'espère que ça n'aura pas lieu du tout. Ce que je sais, c'est que ma première tumeur, elle est apparue quelques semaines après que j'apprenne quelque chose de très traumatisant, de très grave concernant mon enfance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez imaginer. Ça a été un gros choc, un très gros choc, et quelques semaines après, j'avais cette tumeur qui grandissait dans le cerveau. Est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié? J'en ai pas la preuve. Je serais pas étonné qu'il y ait des corrélations. Ce que je sais aussi, c'est que bien que n'ayant pas adopté de traitement type chimiothérapie, radiothérapie, j'ai passé 3 ans et demi sans rechute, mais j'ai appliqué de sérieux ajustements au niveau nutritionnel, au niveau psychologique. J'ai eu recours à des traitements d'acupuncture, à beaucoup de massages, à beaucoup de méditation, à beaucoup de sophrologie, de respiration, et je pense que ça a aidé à ralentir la rechute, et de fait, ça, j'en suis quasiment persuadé, ça m'a aidé à récupérer beaucoup plus rapidement, parce que, bon, comme le disait Julien précédemment, j'ai récupéré 99% de mes fonctions intellectuelles et motrices, alors que j'avais perdu une bonne partie. Et ça, c'est relativement miraculeux, et je pense que c'est en grande partie dû à l'ajustement sur ces facteurs nutritionnels, psychologiques, extra-médicaux, qu'on considérait comme extra-médicaux, mais qui, de mon point de vue, ça devrait être au cœur de la véritable médecine.
Non seulement extra-médicaux, mais récemment on a vu un rapport publié par l'Ordre des médecins, donc la grosse autorité au niveau médical, qui décrivait toutes ces thérapies-là comme étant sectaires. Il faisait appel, donc c'était un appel à ce que tous les médecins en parlent. C'était spécifié que si vous, en tant que médecin, aviez un patient qui refusait un traitement standard, officiel, etc., il était sûrement sous l'emprise d'une secte. Et il fallait donc en parler aux autorités ou notamment à la Miviludes, donc l'agence ministérielle contre la lutte des dérives sectaires, qui est, comme vous l'avez vu sur SOT sûrement, tout un tas de. C'est une organisation qui ressemble plus à une persécution de la.
Une milice fasciste.
Voilà. Et qui n'a rien d'objectif du tout. Il n'y a pas de définition légale pour de ce que c'est qu'une secte. Mais voilà, mais vous voyez à quel point, même au niveau des autorités médicales, ça fait partie de leur mentalité. Donc après, vous êtes en face d'un médecin, vous refusez un type de traitement, bon, mais attention, vous allez être accusé d'être sous l'emprise d'une secte, même si ce n'est que votre idée. Ou le produit de vos propres recherches qui vous ont mené à refuser un traitement ou à rajouter certaines thérapies parce que vous y croyez ou parce que l'idée vous tente ou peu importe. Donc c'est très très dangereux du coup d'aller contre le système. Alors que normalement, on devrait dire, ben vous avez le droit de décider ce que vous voulez, de choisir la thérapie que vous voulez, et elle devrait d'ailleurs être proposée. Le patient, il devrait avoir l'option, le choix entre la thérapie A et la thérapie B. Aujourd'hui, non, c'est juste un chemin possible. Si vous refusez, ils vous font peur, et si vous
et en,
ils vous font culpabiliser ou ils vous accusent d'être faible au niveau psychologique parce que vous n'acceptez pas la thérapie standard, alors que c'est paradoxal parce que c'est justement les gens qui sont le plus faibles au niveau psychologique, qui vont pas chercher à savoir, qui vont pas se documenter, qui
qui
vont
vont se
prendre.
soumettre à l'autorité.
Voilà. Mais non, vous êtes psychologiquement faible si vous allez chercher d'autres thérapies, ouvrir d'autres portes, etc. Donc, vous voyez à quel point c'est assez malade comme système. finalement.
Oui, pour... et peut-être qu'on peut dire quelques mots supplémentaires sur le lobby et le monopole exercé par une petite poignée de praticiennes sur l'ensemble du système de santé français. Avant de développer ce point, juste pour anecdote, les médecins sont connus et reconnus comme des experts en matière de santé. Pourtant, si vous consultez les statistiques de l'INSEE, vous vous rendez compte qu'en termes de catégories socioprofessionnelles, les médecins, c'est une des catégories socioprofessionnelles où l'espérance de vie est la plus faible. Alors comment concilier ce paradoxe? Comment celui qui est censé être expert de sa santé n'arrive pas à atteindre une longévité au moins égale à la moyenne des Français? Alors l'argument en général pour contrer ce fait avéré, c'est de dire oui mais médecin, c'est très stressant. Moi franchement, j'achète pas cet argument-là. Pour la bonne et simple raison que j'ai travaillé avec des maçons, avec des plâtriers, j'ai vu ce que c'était le travail dans le BTP, je sais un peu ce que c'est le travail de métallo, ou les mineurs ou travailler dans les carrières. Ça, ce sont des métiers difficiles. Vous ne faites pas 5000 euros ou 200 000 euros net mensuel. Vous ne pétez pas dans la soie. C'est des travaux exténuants, dangereux, usants, qui sont une cause réelle d'affaiblissement de la longévité. Mais être médecin dans un appartement haussmannien dans le 16e arrondissement à Paris, à aligner les 100 et les 1000 en étant confortablement assis dans un fauteuil en cuir, je ne considère pas ça comme une activité professionnelle induisant un fort niveau de stress.
Même si on reconnaissait, si on acceptait cet argument en disant c'est stressant, ça peut l'être pour certains médecins, certains chirurgiens, etc. Bon, on va dire que c'est vrai. Même dans ce cas-là, pourquoi est-ce que l'espérance de vie est si courte? Ils ne prennent pas en compte le stress en tant que facteur déclenchant de maladie. La nutrition, n'en parlons pas. Souvent, vous voyez des spécialistes dans des maladies qui sont... vous voyez un gastro-entérologue qui est censé vous donner des conseils de nutrition, de comment bien préserver votre côlon, etc. Et qui... Ne serait-ce qu'en les regardant, on peut voir qu'ils ont un problème de foie, d'estomac, d'intestin et tout ça. Donc, même les connaissances qu'ils ont, elles ne s'appliquent pas. Parce que je suis sûre que la plupart, ils essayent d'appliquer leurs connaissances vu qu'ils voient, qu'ils font des colonoscopies tous les jours, par exemple. Ils doivent savoir ce que c'est qu'un côlon irrité, qu'un côlon malade, etc. Et en suivant les conseils qu'ils donnent à leurs propres patients, ils sont toujours malades. Donc, comment ça se fait qu'ils ne voient pas cette contradiction entre les préceptes de la médecine et
les résultats tangibles? Et quant au lobby et au monopole exercé par les praticiens de santé, plusieurs exemples. D'une part, il y a ce scandale du numerus clausus. Numerus clausus, ce terme latin un peu barbare, ça définit simplement le nombre d'étudiants en médecine qui sont acceptés la première année à la deuxième année. Et artificiellement, volontairement, ce chiffre est gardé à un niveau très bas, ce qui fait que chaque année, les nouveaux diplômés issus de facultés de médecine sont en nombre très faible, trop faible par rapport à la demande, au nombre de patients, ce qui fait que les praticiens déjà établis disposent d'un marché plus important. Il y a plus de patients pour chaque praticien et donc plus de profits potentiels.
Et
ça, bien sûr, au détriment de la qualité des soins dispensés en France.
Et ce qui est triste aussi, maintenant que tu en parles, c'est que... notamment on parlait du manque d'empathie chez les médecins. Pour ce que j'ai pu voir des concours par rapport à des amis qui étaient en train de passer un concours de médecine, ce n'est que du recrachage, que de l'apprentissage par cœur. Il n'y a aucun... Et j'en ai des amis qui, à mon avis, auraient eu vraiment un grand potentiel au niveau de cette carrière-là, s'ils avaient eu la possibilité de le faire, parce qu'ils voulaient vraiment aider les gens à guérir des maladies, être là pour les patients, etc. Mais tous ces critères-là ne comptent pas dans le concours. C'était que leur capacité de mémoriser des centaines et des centaines de mots. Et voilà, c'est ça qui définit votre entrée ou pas à l'école de médecine.
Je pense personnellement que ce mode de sélection, il a été choisi consciemment pour sélectionner un certain profil de médecin qui va être de bons prescripteurs soumis qui fermeront les yeux sur les carences des molécules qu'ils prescrivent et qui appliqueront une stratégie thérapeutique, un mode thérapeutique définie en haut lieu. Et pour relier praticien et haut lieu, centre de décision, il y a aussi ce lobby des médecins qu'on ne peut pas passer sous silence. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les deux professions les plus représentées sont les avocats et les médecins. Ça veut dire que vous avez des groupuscules alliant industrie pharmaceutique, autorité politique et autorité de santé, avec des individus qui portent plusieurs de ces chapeaux, qui définissent littéralement la politique de santé qui est menée en France, autant au niveau des praticiens que des hôpitaux, que des médicaments, que des orientations de la sécurité sociale. Et bien sûr, en servant essentiellement quelques intérêts individuels, quelques intérêts d'entreprise, au détriment encore des intérêts collectifs.
Alors maintenant que tu parles d'autorité, peut-être que pour conclure, on pourrait introduire un peu le sujet des suiveurs autoritaristes. Parce que c'est un concept qui n'est pas très très connu dans le monde francophone. D'ailleurs, je crois que les seules traductions qu'on trouve, c'est celles qui ont été effectuées par Sotte. Ouais. Ce n'est pas un sujet si connu que ça non plus dans le monde anglophone, il faut dire. Hein. Mais alors, d'un côté, vous avez les personnes autoritaires, les leaders, enfin, tout le monde connaît ce terme-là. Et de l'autre côté, vous avez les suiveurs autoritaristes. Ou les autoritaristes, pour faire plus court. Hein. Alors, je ne sais pas si tu veux lire peut-être la définition, la plus une petite définition qu'on a de ce terme-là.
Oui. Alors, pour ceux qui lisent l'anglais, nous vous recommandons le livre de Robert Altmaier, The Authoritarians. Robert Altmaier, c'est le chercheur spécialiste de ce domaine et qui a fait avancer le secteur d'une manière fort sensible, en particulier en se focalisant sur les suiveurs. Parce que pendant longtemps, les chercheurs du domaine se focalisaient sur les leaders, les Hitler et consorts. Donc comment est défini l'autoritariste, le suiveur autoritariste? Alors, ça commence à ces termes. Mais il y a un segment de la population qui suivra la règle de l'autorité, ou juste de l'autorité perçue, même s'il devient évident que cette autorité n'a pas leur meilleur intérêt à cœur. Ce segment est ce que Bob Altmaier appelle les autoritaristes, aussi désignés par le terme de suiveurs autoritaristes, qui partagent la malheureuse caractéristique de croire aveuglément l'autorité officielle. Selon Bob, les autoritaristes sont fortement soumis à l'autorité établie, agressifs au nom de cette autorité et conventionnels au point d'insister sur le fait que tout le monde devrait se comporter comme le décident leurs autorités. Ils sont peureux et suffisants et ont en eux beaucoup d'hostilité qu'ils dirigent volontiers vers divers groupes externes. Ils sont facilement incités, facilement menés, plutôt non enclins à passer par eux-mêmes, largement imperméables aux faits et à la raison et se fient avant tout au support social pour maintenir leurs croyances. Ils sont extrêmement loyaux envers leur propre groupe, ont un esprit très fortifié et fortement compartimenté, utilisent des tas de deux poids deux mesures dans leur jugement, sont étonnamment sans scrupules par moments et souvent hypocrites. Mais ils sont insaisissables quand il s'agit de culpabilité. Ils sont inconscients d'eux-mêmes, ethnocentriques et bourrés de préjugés, et aussi bornés que limités.
Et ça rappelle pas mal tout ce qu'on a dit, sur aussi bien sur plusieurs médecins, plusieurs patients aussi, hein, qui croient aveuglément ou qui vous accusent de ne pas suivre telle ou telle thérapie.
Les infirmières.
Les infirmières, il y a un exemple qui est une anecdote assez
piquante.
Oui, dans un livre de Robert Cialdini, c'est un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Influence, Science and Practice, Influence, Science et Pratique. Et il donne beaucoup d'exemples sur la façon dont on se fait manipuler, influencer. Et notamment dans un expériment qu'ils ont fait aux États-Unis, dans le milieu des infirmières, ils ont donné un médecin, il a prescrit donc un médicament, c'était des gouttes pour une infection aux oreilles, et dans l'ordonnance qu'il donnait aux infirmières, au lieu de mettre oreille droite, donc en anglais right ear, pour simplifier, il a mis R majuscule, ear, rear. Ça se lit rear. Et en anglais, ça, ça veut dire derrière. Donc les infirmières aveuglement, comme le disait Pierre, comme le disait tout à l'heure Pierre dans le cas des suiveurs autoritaristes, alors qu'elles savaient très très bien que c'était un médicament pour une otite ou une infection aux oreilles, et ils ont appliqué ce médicament au niveau de l'anus. Donc ils donnaient systématiquement ces gouttes aux patients au niveau de l'anus. Alors imaginez à quel point c'est ridicule quand on y réfléchit, hein. Quelqu'un qui est censé avoir des connaissances, elle suit aveuglement les instructions d'un médecin juste parce que c'est un médecin, en ayant des effets. Bon, l'auteur il n'explique pas les effets que ça a eu chez les patients, mais j'imagine que ça ne doit pas être très
efficace
ni agréable. Enfin, alors, donc ça c'était un exemple. L'autre, beaucoup plus grave, c'était le cas de... Ils ont essayé de voir si cela s'appliquait à juste un hôpital ou si c'était un phénomène global. Et ils ont fait un test où une personne qui n'était pas médecin a téléphoné à environ 20 hôpitaux différents en se faisant passer pour un médecin. Il a dit « Bonjour, je suis le docteur X ». Et il a demandé à ce que les infirmières donnent à certains patients un médicament dont la dose était deux fois plus forte que d'habitude, ce qui posait vraiment un danger. Alors c'était un médicament qui s'appelle Astrogène. Je ne sais pas s'il existe en France. Mais en tout cas, donc, les infirmières, elles ont aveuglément suivi les instructions, alors qu'elles savaient très bien, il y avait plusieurs facteurs qu'elles savaient étaient vraiment factuels, hein, il n'y avait pas de doute là-dessus. Le premier, c'était que l'ordonnance avait été donnée par téléphone, ce qui viole le règlement officiel, comme quoi il faut toujours une preuve papier de telle ou telle ordonnance. Le deuxième fait était que le médicament n'était pas autorisé encore, alors qu'elle le connaissait, mais il n'était pas autorisé. Trois, la dose prescrite était très clairement dangereuse. Ça, c'était deux fois plus important que la dose qui était encore dans la phase d'examination. Et en quatrième lieu, les instructions avaient été données par un homme ou par une personne qu'ils n'avaient jamais rencontrée, vue, ni elles n'avaient pas entendu parler de ce médecin avant, ni rien. Juste, ils avaient eu cet appel téléphonique. Le résultat, c'est que malgré tous ces faits, 95% des infirmières ont suivi les instructions. Bien sûr, c'était contrôlé pour qu'à la fin, ça n'arrive pas. Hein. Ils ne donnent pas ce médicament aux patients. Mais c'est pour montrer à quel point, même dans le milieu hospitalier, on a cette confiance aveugle. Et il suffit de dire « je suis médecin ». On vous demande même pas de preuves. Ensuite, par rapport à ça, ils se sont posé la question « mais est-ce que c'est dangereux ou pas ? Est-ce que finalement, bon, la plupart des gens, ils vont pas se faire passer pour un médecin, etc. ?» Mais il s'avère qu'il y a 12% d'erreurs au niveau des prescriptions médicales par jour aux États-Unis. En France, je ne connais pas le chiffre, mais ça ne doit pas être bien loin. Donc, ça veut dire que dans 12%, les médecins ils se trompent, même si c'est des vraies autorités. Dans ce cas-là, pas de personnes qui se font passer pour des médecins. Donc, vous êtes un cobaye. Non seulement on a le risque de la médecine qui est corrompue, depuis les échelons les plus hauts, donc pharmaceutiques, etc. Mais en plus, il y a l'erreur humaine. On n'y est pour rien, c'est comme ça. Et en plus, vous rajoutez la couche des suiveurs autoritaristes qui vont respecter les consignes, peu importe à quel point ça a l'air ridicule, illégal, illogique, et pas éthique même, hein. Donc vous voyez la différence, vous voyez dans quelle position faible on est, nous en tant que patients ou quelqu'un de vos proches qui se trouve dans la situation dans la condition de patient, et à quel point on est susceptible, ben voilà, d'erreurs, de manipulations et tout ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on doive négliger, je pense, hein. Le fait de ne pas... il ne faut pas croire que les autorités sont des dieux, que c'est parce qu'elles le disent parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup plus de connaissances. Peut-être qu'elles ont des connaissances techniques, mais au niveau des erreurs humaines, personne n'est parfait. Et c'est d'autant plus dangereux parce qu'elles ont été convaincues que ce qu'ils disent, c'est la vérité infuse. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. On n'est pas que tout le système soit pourri de l'intérieur ou qu'il ne faille pas écouter ou prendre au sérieux les conseils médicaux. Pas du tout, hein. Mais en gardant toujours cet esprit critique et en essayant de vérifier, de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités, si vous pouvez avoir accès à d'autres cas qui soient similaires aux vôtres, etc.
Oui, un dicton dit quelque chose du type le début de la compétence, c'est d'avoir conscience des limites de sa compétence et de sa propre incompétence. Et c'est vrai qu'il est très dangereux d'avoir des personnes en position d'autorité qui sont convaincus de leur compétence absolue, de leur science infuse, et c'est d'autant plus dangereux quand ils sont entourés de suiveurs autoritaristes qui croient aveuglément tout ce que dit l'autorité, même si ce que dit l'autorité est totalement et manifestement erroné. C'est un thème fascinant, ce thème des suiveurs autoritaristes, tellement fascinant que ce sera l'objet de notre prochain podcast. Alors, on va pas dévoiler le sujet plus aujourd'hui. Peut-être pour conclure et pour vous stimuler une réflexion supplémentaire, on peut mentionner l'expérience de Milgram. Vous vous souvenez de cette expérience de Milgram? C'est ce chercheur en sociologie qui demande à des étudiants d'administrer des décharges électriques à un cobaye. Ces décharges électriques sont intimées par une autorité, un individu qui porte une blouse. C'est le symbole de l'autorité dans ce cas-là. Et on voit que grosso modo 50% des étudiants vont aller jusqu'à dépasser la décharge, le voltage létal, mortel. Ça vous donne une idée de combien la soumission aveugle à la parole de l'autorité peut pousser l'individu à agir en toute opposition aux principes les plus simples d'éthique et de respect d'autrui. On ne va pas vous en dire beaucoup plus, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on développe ce podcast. Donc, nous vous remercions pour votre attention et votre patience. Nous espérons que ce sujet aura répondu à certaines de vos attentes et vous aura intéressé.
Et comme on disait lors de l'introduction, on espère que cette année vous apportera beaucoup de bonnes choses et que vous serez en très très bonne santé. Et voilà, même si ça vous semble un peu contradictoire, vous pourrez le voir sur SOT et sur le forum. La prescription de SOT, qui n'est pas une autorité, mais bon, si vous êtes un suiveur autoritariste, vous allez nous écouter. Si vous ne l'êtes pas, vous allez chercher des preuves, et c'est d'autant mieux, et vous allez suivre nos conseils quand même. C'est de manger beaucoup de gras animal et de suivre un régime cétonique. Vous pouvez trouver des informations sur sot.net. Si vous en parlez à votre médecin, le plus probable, c'est qu'on vous envoie dans un hôpital psychiatrique. Mais voilà, c'est votre choix, et en tout cas, on espère que vous serez en très très bonne santé, parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à apprendre et à développer cette année, et il nous faut toutes les neurones et toute l'énergie qu'on puisse ramasser cette année, parce que le monde, il est en train de se transformer, et si on n'est pas conscient, on aura beaucoup beaucoup de problèmes.
Bonne année et bonne santé, loin du meilleur système de santé du monde.